Salut à tous, Jérémy Royaud pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, je suis avec Florence Dehury. Salut!
Salut Jérémy.
Alors, Florence est illustratrice scientifique, surtout axée sur tout ce qui est sciences naturelles. Elle est aussi créatrice du site Questions Animalistes, qui traite essentiellement de questions liées à l'éthique animale, plutôt avec un angle aussi un petit peu sceptique. Et elle est aussi conférencière sur ces mêmes sujets. Et je l'ai invitée aujourd'hui et pour un autre épisode aussi, puisqu'il y aura deux épisodes, pour parler de différents sous-sujets liés au véganisme. Voilà, pour le reste, je te laisse te présenter un petit peu les questions qu'on va aborder.
Ok, pas de souci. En effet, voilà, je fais des conférences sur des sujets qui sont liés alors au véganisme, plus largement aux questions d'éthique animale, donc ce qu'on appelle l'animalisme. Et je traite le sujet autant que possible d'un point de vue sceptique. Voilà, je pense que c'est des sujets qui me tiennent à cœur aussi, une démarche qui me tient à cœur. En premier lieu, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de définir les termes. Et un petit peu l'entourage moral qui est forcément rattaché à ce sujet du véganisme. Alors, le véganisme en soi, alors il y a des définitions un petit peu contradictoires sur ce terme, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, je précise dès maintenant que ça ne fait pas forcément consensus, mais je vais donner la définition, disons, la plus courante du terme. C'est un refus de consommation de produits qui impliquent l'exploitation des autres animaux, ou un refus des animaux eux-mêmes. C'est-à-dire que on ne va pas, quand on est vegan, on ne mange pas de viande, par exemple, de produits laitiers, de miel aussi, etc. On ne va pas porter de fourrure, de cuir. Voilà, ça consiste à ne pas considérer les autres animaux comme des ressources, comme des matières premières, comme des aliments, etc. Donc c'est un mode de vie dans la mesure où on peut l'être pour différentes raisons. Alors c'est souvent, hein, très très majoritairement des raisons éthiques liées au fait de ne pas vouloir nuire aux autres animaux, mais on peut aussi l'être parce que, par exemple, un enfant, ses parents sont véganes, il n'a pas le choix, il est végane. Voilà. Donc c'est pas forcément lié à des questions éthiques, hein. On peut être végane par contrainte. On peut, pourquoi pas, être végane par mode aussi, hein. Voilà, c'est pas une majorité de personnes a priori, selon les données qu'on a, mais c'est possible aussi. Donc voilà, ça reste un mode de vie qui est un refus de consommer tout ce qui est issu des animaux. Plus largement, on a la question donc de l'animalisme aussi, qui est un terme qui désigne une éthique qui prend en considération les intérêts des autres animaux. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est très très large et qui s'intéresse à rejeter un petit peu cette doctrine qui voudrait qu'on ne prenne en considération que les intérêts des êtres humains, et qui étend donc la considération morale aussi aux autres représentants des autres espèces. On a ensuite les notions de spécisme et d'antispécisme qui sont aussi très souvent liées à la question du véganisme. Alors même si on peut être végane sans être antispéciste, on peut être antispéciste sans être végane. Je vais détailler un petit peu. Donc pour comprendre ce que c'est l'antispécisme, il faut d'abord plutôt chercher à définir ce qu'est le spécisme. Le spécisme, c'est une doctrine qui énonce qu'il y a une hiérarchie entre les espèces animales et qui est globalement favorable à l'être humain, c'est-à-dire qui octroie des privilèges aux humains au détriment de toutes les autres espèces. Donc c'est une discrimination qui est basée sur le critère de l'espèce. C'est-à-dire qu'on va considérer que tel individu appartenant à telle espèce, par exemple, je sais pas, un sanglier, un cochon, une vache, va ne pas bénéficier de droits fondamentaux, on ne va pas lui octroyer de droits fondamentaux puisqu'on estime que ce critère est suffisant pour l'exclure de toute considération morale ou de certaines considérations morales. Donc on va. Ce terme peut recouvrir aussi la différence de traitement qu'on fait entre différents individus appartenant à différentes espèces au sein même du règne animal, hors humain. C'est-à-dire qu'on va parfois considérer qu'il est tout à fait acceptable de tuer, de manger une vache, par exemple, et qu'on va considérer qu'il n'est pas du tout acceptable de tuer et de manger un chien. Voilà, donc il peut y avoir une distinction qui est faite comme ça sur certains critères entre les différentes espèces et qui amène à des traitements différents. Voilà pour les définitions des termes. Donc cette posture végane, on va plutôt la traiter parce que c'est l'écrasante majorité des personnes qui sont véganes le sont sur pour des raisons éthiques, donc on va plutôt le traiter sous un angle moral. En fait, ça découle d'un système de valeurs morales qui énonce que globalement, on va chercher à réduire les souffrances et à promouvoir plutôt le bonheur des individus. Donc, on va considérer que si un individu est capable de ressentir une nuisance, on va chercher à lui éviter cette nuisance autant que faire se peut. Alors, bien sûr, il y a des limitations hein, au fait d'être végane, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. En roulant en voiture, par exemple, on ne peut pas éviter d'écraser des insectes sur son pare-brise ou en marchant dans l'herbe, par exemple. Le véganisme ne concerne pas ça, hein. C'est vraiment une attitude qui dépend des possibilités, des choix qu'on a. Voilà, les véganes généralement ne condamnent pas les personnes qui, par exemple, n'ont pas accès à une diversité de produits végétaux qui leur permettent d'être véganes dans de bonnes conditions.
Ok, donc la distinction s'arrête là où la possibilité s'arrête, en gros, si je comprends bien ce que tu veux dire.
C'est ça, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus en situation de choix, à partir du moment où on n'a pas la possibilité de, par exemple, avoir accès à des légumes, à des fruits, à des céréales, des légumineuses, tout un tas de produits végétaux cultivés pour avoir une alimentation équilibrée, ou alors si on est obligé de fouiller les poubelles pour trouver, par exemple, un sandwich au jambon par survie, on sort complètement du cadre du véganisme, bien sûr, et là,
D'accord.
il n'y a pas de, voilà,
Ça.
c'est encore autre chose.
J'imagine que ça inclut aussi, du coup, les personnes qui ont des problèmes médicaux qui font qu'un régime vegan est très difficile pour eux. En fait, je pense
Alors,
à.
oui.
Oui, je pense à certaines choses, genre intestin irritable, par exemple, qui rend ça assez compliqué, quoi.
Alors, c'est vrai que sur certaines pathologies, notamment des problèmes de conversion, par exemple, du bêta-carotène en vitamine A, c'est vrai que ça peut poser souci. Il y a aussi une intolérance, par exemple, aux légumineuses qui peut être compliquée, ou aussi l'accès aux médicaments qui sont tous testés sur les animaux aussi, donc qui impliquent des tests qui sont hors du cadre moral qui est porté par le véganisme. Ça, c'est pareil, ce sont des situations dans lesquelles, s'il n'y a pas d'alternative, on va quand même estimer qu'il est souhaitable ou acceptable de bénéficier de ces médicaments, de ces traitements, etc., même s'ils ne sont pas strictement véganes. Les traitements qui sont à base, enfin, qui contiennent du lactose, par exemple, en tant qu'excipient, s'il n'y a pas d'alternative à ces médicaments-là, les véganes vont quand même les prendre hein, en estimant qu'il vaut mieux être en bonne santé.
Tout à fait, ouais.
Voilà, donc c'est vraiment la notion de choix est bien sûr inséparable du concept.
Ok.
Voilà. Alors, il y a toujours une petite crispation autour de ces questions. C'est vrai que le véganisme est une pratique qui est assez mal comprise. On en entend de plus en plus parler dans les médias en ce moment, depuis quelques années. Et notamment à la suite de diffusion de vidéos d'élevage et d'abattoirs tournées par des associations qui ont révélé au grand public des pratiques qui étaient assez peu exposées au départ. Donc, il y a toujours cette considération éthique qui sous-tend la pratique et qui fait beaucoup débat parce qu'on a tendance à estimer que la morale est subjective, que les personnes qui prennent en compte les intérêts des autres animaux sont militantes et que à ce titre, on sort du cadre de la science, on sort du cadre du scepticisme, etc. Donc, moi, c'est vrai que c'est pour ça que je travaille aussi sur ces questions en mettant un petit peu en parallèle. Un double standard aussi qu'on retrouve dans certaines communautés sceptiques ou scientifiques, ou en tout cas chez certaines personnes, qui acceptent davantage les injonctions morales dans certains domaines et pas dans d'autres. On peut par exemple prendre le cas des injonctions qui sont faites au niveau de la santé, où on a régulièrement des discours qui nous invitent à nous faire dépister pour le cancer du sein, par exemple, où on estime que ces campagnes sont nécessaires, qu'elles sont souhaitables. Quand on voit une campagne nationale qui nous dit faites-vous dépister, on réagit rarement en disant non, la morale est subjective, donc c'est un point de vue, c'est partial, je vais pas me faire dépister. Généralement, on le prend comme un message de santé publique qui est nécessaire, qui est spontanément acceptable, etc. Et par contre, quand il y a d'autres messages qui sont émis, en particulier ceux qui concernent les autres animaux, dans ce cadre-là, et qui exprime par exemple que consommer de la chair animale, ça entraîne des souffrances, et bien là, on considère que ça va être plutôt des injonctions militantes et on va moins les prendre en compte. Donc il y a un petit décalage, un double standard en fait, dans la manière où, dont on considère ces injonctions, entre guillemets, quoi.
Ouais, en tout cas, au niveau de la population, puisque si je ne me trompe pas, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais je pense qu'au niveau légal, il y a déjà toute une série de lois qui sont basées sur des attentes minimum à respecter par rapport au bien-être animal, ou en tout cas à une diminution de leur mal-être dans les conditions d'abattage. Donc la législation intègre déjà une notion de bien-être animal qui est obligatoire en fait.
Alors, c'est vrai que dans la loi, effectivement, la prise en compte des besoins essentiels des individus est notifiée noir sur blanc. Et puis, il y a des amendes et des punitions quoi, qui sont prévues, des peines de prison également, pour les maltraitances sur les animaux maintenus en captivité, domestiqués, etc. Le problème, c'est qu'on se rend compte que dans les faits, ça n'est pas du tout appliqué, ou en tout cas, il y a une grande confusion dans les termes. Parce que on a par exemple l'article 521-1 du code pénal qui va énoncer que le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ça, c'est ce que dit le code pénal. Dans les faits, un sévice grave sur un animal domestique, on peut estimer que égorger un animal domestique, c'est un sévice grave.
Effectivement.
Voilà, et c'est là que se pose la question de la notion de bien-être et de ce qu'on estime correspondre à cette notion, qui est souvent un petit peu floue. On estime par exemple que castrer des porcelets à vif, sans anesthésie, en leur arrachant les testicules avec une tenaille, c'est ce qui est pratiqué dans la plupart des élevages. C'est une pratique qui correspond aux normes. Donc ça pose question sur cette notion de bien-être, voilà, qui est assez relative pour le coup. Alors c'est vrai que les sévices de nature sexuelle sont pour le coup moins acceptés, hein, ce qu'on appelle la bestialité est quand même moins acceptée.
C'est moins accepté, même si les études sur la question montrent qu'il y a des régions où c'est quand même finalement assez fréquent.
Oui, alors je dis c'est moins accepté, en effet j'aurais peut-être dû préciser en France, c'est vrai qu'il y a des pays où avoir des relations sexuelles avec d'autres animaux n'est pas condamné, ni dans la société, ni légalement, d'un point de vue légal. En France, par contre, c'est vrai que ce sont des choses qui sont
Interdit,
assez
ouais, tout à fait.
massivement rejetées et interdites par la loi. Voilà. On a aussi des exceptions à ces lois. C'est notamment le cas pour la corrida avec mise à mort qui est pratiquée et légale dans 11 départements. Donc on a un décalage entre le droit national là et le droit qui s'applique dans ces 11 départements où on peut en effet pendant 10 minutes, un quart d'heure, je sais plus exactement combien de temps dure une corrida, transpercer l'animal avec des épées, des poignards, etc. Et donc ça on peut estimer que ce sont aussi des sévices graves et des actes de cruauté. Mais qui sont pour le coup tolérés. Alors là, c'est en l'occurrence au nom d'une tradition ininterrompue. C'est que le critère, c'est celui-là. Voilà, c'est que la tradition doit être ininterrompue. Donc on voit que voilà, y a un décalage quand même. En fait, la notion de bien-être animal, quand on observe à quoi ça correspond, ça ressemble plus à une fake news entre guillemets qu'à véritablement une protection ou une prise en compte des autres animaux.
Moi, je dirais que c'est, en tout cas, c'est la notion du bien-être animal est travaillée tant qu'elle ne nuit pas aux pratiques de production qui sont les nôtres de manière standard. C'est-à-dire que tant qu'on peut améliorer le bien-être animal sans réduire la productivité ou empêcher les gens de consommer ce qu'ils ont l'habitude de consommer, ben c'est plutôt positif, mais il ne faut pas aller plus loin dans beaucoup de cas, quoi. Est-ce que t'es d'accord avec ça?
Alors, c'est vrai que la notion de bien-être, elle est de toute façon liée tout le temps à l'économie humaine et à la façon dont on vit. Ce qui n'est pas appliqué, c'est de considérer les animaux comme ayant des droits qui doivent leur servir à eux et comme étant des sujets indépendants. C'est-à-dire qu'on va toujours considérer que le traitement qu'on leur impose, soit dépendant de considérations humaines, du marché, de nos habitudes, comme tu dis, de nos modes de vie, etc. Donc, il y a une un conflit en fait dans ces deux notions, c'est que on va d'abord considérer le bien-être des sociétés humaines et en fonction de de ces éléments-là, on va établir des mesures dites de bien-être animal. Mais c'est vrai que la définition même du bien-être, qui est censée être un sentiment d'agrément, d'épanouissement, de plaisir, de satisfaction, et de réponse aux besoins physiologiques, psychologiques, etc., cette définition-là, elle ne colle pas dans les faits avec, avec ce qu'on impose aux animaux.
Ouais,
Donc,
c'est ça.
ouais. Voilà, donc on le voit qu'il y a, il y a ces, ces textes de loi et ces réglementations qui sont un petit peu confusionnistes par rapport à, au traitement réel qui est fait des autres animaux. Alors quand je parle des autres animaux, je parle surtout des animaux dits de rente, hein, c'est les animaux qui vivent dans les élevages et qui sont abattus, en particulier pour la consommation alimentaire, ce qui représente la grande majorité de, des animaux tués, et en particulier des animaux aquatiques notamment. Voilà, qui sont la grande majorité des animaux tués sur, alors là, un niveau international, mondial. C'est entre 1 000 et 3 000 milliards d'individus, mais l'estimation est très compliquée parce qu'elle se fait surtout en tonnes, plus qu'en nombre d'individus. Donc c'est une estimation. Alors ce qui peut renforcer aussi cette, ce décalage un petit peu avec le réel entre le traitement qui est imposé aux animaux et ces notions de bien-être, c'est, alors je ne sais pas si on peut parler de biais du survivant, mais c'est vrai que le grand public est exposé plutôt aux animaux qui, par définition, sont visibles, donc ceux qui sont à l'extérieur et qu'on voit quand on prend le train, quand on prend la voiture et qu'on voit dans les champs, et pas du tout exposés à ceux qui vivent dans des élevages fermés, donc les élevages intensifs dits industriels, qui là sont dans des, élevés dans des conditions plus, plus cachées puisque ce sont des, dans des bâtiments fermés. Donc c'est vrai qu'il y a une, voilà, il y a un petit décalage dans la vision qu'on peut en avoir. On voit ce qu'on voit, que les animaux qu'on perçoit, ce sont toujours ceux qui sont à l'extérieur, en liberté, entre guillemets, alors qu'en France, il y a 80% des animaux d'élevage qui sont élevés en bâtiment. Donc voilà, c'est pareil, ça joue aussi de ce décalage. Sur la confusion aussi qui peut exister autour du véganisme et de toutes ces questions, on peut aussi parler du traitement médiatique et des informations qui sont délivrées au grand public. Et là, c'est pareil, c'est rarement, malheureusement, à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, voilà, du sujet. Et on retrouve un petit peu les mêmes travers dans le traitement médiatique et journalistique des questions liées au véganisme. On trouve un peu les mêmes travers que sur les questions de santé, par exemple, ou certaines questions scientifiques, hein, qui sont traitées avec un petit peu, un petit côté sensationnaliste, toujours. C'est vrai que parler de véganisme, ça génère généralement pas mal de clics, ça fait beaucoup d'audience. Et malheureusement, on se retrouve souvent avec des informations un petit peu spectaculaires, un peu, voilà, alors que ça n'a pas vraiment de rapport avec, avec ce dont il est question. On a pu voir ces derniers temps certains cas d'influenceurs ou d'influenceuses, notamment sur YouTube, qui ont eu des problèmes de santé suite à une alimentation de type vegan ou végétalienne,
Tout à
qui
fait.
est, voilà, ouais, qui ont été mal menées, et notamment un homme qui faisait du fitness, Tim Schiff, qui s'est retrouvé dans un état de dénutrition et de mal-être assez spectaculaire. Son cas a été très très médiatisé et ça a été bien sûr, enfin tous ces problèmes de santé ont été imputés au végétalisme ou au véganisme. Et lui-même a justifié, enfin a expliqué son histoire en disant que c'est vraiment le végétalisme qui l'avait mis dans cet état de très très mauvaise santé. Et bon, ça a été repris tel quel par par les médias, sans beaucoup plus de recherche, et ça a été vraiment, c'est le véganisme à ce moment-là qui a été accusé, montré du doigt par les médias. Et puis bon, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que cet homme buvait son urine et pratiquait des jeûnes de plusieurs dizaines de jours, donc avait complètement versé dans les pseudo-sciences, c'était très très réfractaire à tout ce qui était médical, etc.
Pour les auditeurs, on ne vous le dira jamais assez, ne buvez pas votre urine.
Alors moi, je vais pas m'exprimer sur ce sujet parce que c'est vrai que je connais très mal ce que ça implique, mais c'est vrai que voilà, c'est pour souligner le fait que dans ces pratiques-là, on a très souvent les pseudosciences qui reviennent. Ça a été le cas aussi d'une influenceuse, Rovana, je crois qu'elle s'appelait, qui a été surprise en vidéo en train de manger un poisson. Elle a essayé de cacher la chose sur la vidéo, alors qu'elle était en très mauvaise santé en fait, et elle a été obligée de remanger des poissons pour reprendre des forces. Et parce qu'elle, c'est pareil, elle a mal pratiqué son alimentation. Elle a été surprise en vidéo à ce moment-là en train de manger des poissons. Ça a fait un tollé sur la toile et un gros buzz, comme il peut y en avoir sur YouTube. Et elle s'est expliquée en disant qu'elle était en très mauvaise santé. Malgré tout, elle continuait à promouvoir une alimentation végétalienne auprès de ses fans. Voilà. Et c'est pareil. Là aussi, médiatiquement, ça a été le véganisme qui a été pointé du doigt. Mais en creusant un petit peu, bah, c'est pareil. On se rend compte que cette personne pensait qu'on pouvait trouver, par exemple, de la vitamine B12 dans l'aloe vera, ce qui est complètement faux. J'en reparlerai tout à l'heure. Hein, on fera un petit point spécifique sur ce nutriment, mais la vitamine B12, elle se trouve pas dans les produits végétaux, en tout cas pas sous une forme assimilable. Donc, et ça, c'est une chose qui peut entraîner des problèmes de santé extrêmement importants. Voilà, donc c'est toujours ça, entre autres. Elle aussi, elle pratiquait le jeûne. Voilà, donc on remarque énormément de pratiques pseudo-scientifiques, des pseudo-thérapies, généralement une aversion pour la science, pour les médicaments, pour enfin une espèce de chimiophobie, voilà, qui rejette tout ce qui est jugé synthétique, chimique, chimique au sens pas naturel, au sens artificiel et néfaste, quoi.
Et
Voilà.
tu veux dire que c'est commun chez les vegans ou c'est commun chez les influenceurs un petit peu visibles?
Alors, c'est pas commun spécifiquement chez les véganes. En tout cas, ce serait une généralisation abusive, hein, de dire ça. Par contre, c'est vrai que le fait de remettre en question l'alimentation traditionnelle, entre guillemets, celle qu'on apprend hein, quand on est enfant, bon, on choisit pas vraiment de manger de la chair ou des œufs, hein, on mange ce qu'on a. Donc, habituellement, on a une alimentation qui est plutôt carnée, qui est plutôt, voilà. Quand on remet en question ce modèle-là, on a tendance à remettre en question aussi ben, tout ce qui est délivré par les institutions comme message nutritionnel, hein, par exemple sur le fait de consommer des produits laitiers, le fait de devoir manger des poissons pour diverses raisons, etc. Donc il y a aussi un rapprochement avec des questions de nature, un certain attachement à la nature, voilà, un petit retour aux sources, etc. Donc c'est vrai que les pseudosciences, on les retrouve quand même souvent. Chez des personnes qui sont végétariennes, végétaliennes ou véganes, mais c'est pas propre au véganisme. Donc il faut faire attention à ces associations un petit peu fallacieuses. C'est plus un problème de personne, un problème enfin de personne, dans le sens que c'est un problème d'éducation, en fait, d'éducation à la méthode scientifique, d'accès à l'information aussi. C'est difficile d'avoir accès aux informations nutritionnelles qui sont fiables, c'est difficile de travailler son esprit critique, d'avoir des réflexes de traitement de l'information. Voilà,
Ah
je
oui,
pense
ça
que
c'est vrai.
on est d'accord sur ce point-là. C'est quand même sur ces questions-là. Alors en plus, les données nutritionnelles sont quand même difficiles à acquérir aussi sur des grandes populations et sur le très long terme, parce que pour des raisons techniques, pratiques et des raisons éthiques, c'est très difficile de suivre le régime alimentaire de milliers de personnes pendant des années. Hein, voilà, donc il y a des études de cohortes qui sont menées, qui sont intéressantes. Mais bon, c'est toujours des résultats, voilà, qui sont, puis de toute façon, qui sont difficiles c'est difficile d'y avoir accès quand on est quelqu'un de lambda. On tape sur Google comment trouver du calcium, et puis bon, bah, on ne sait pas forcément vers quoi se tourner. On peut tomber sur Doctissimo, sur nutritionmagique.com, sur on sait pas. Hein, donc il y a énormément de désinformation à ce sujet, et puis il y a énormément d'intérêts financiers, quoi,
Ouais, c'est vrai.
liés bah, à toutes les pseudosciences, aux extracteurs de jus, à tous ces marchés un petit peu des aliments magiques, des super aliments, de la super food. C'est difficile de s'y retrouver. On retrouve en fait les mêmes travers que dans la détox, le sans gluten qui est promu même en l'absence de maladie cœliaque, ce genre de choses. Donc voilà, c'est facile de tomber dedans. Donc c'est pas propre aux populations véganes, mais c'est vrai que comme on s'intéresse généralement plus à la nutrition, comme on a remis en question une norme, etc., on est peut-être plus enclin à remettre en question aussi ce que disent les institutions, les instances de santé, etc. Donc ça, c'est un danger. Malgré tout, c'est vrai que je pense que le traitement médiatique devrait être devrait faire la part des choses. C'est vrai qu'on retrouve aussi énormément d'attachement aux pseudosciences dans la population générale. Et voilà, assimiler ça au véganisme, c'est un petit peu fallacieux. On a eu le cas aussi pour des couples de parents qui ont alors soit perdu un enfant, parce que ça mène parfois à des drames, soit qui se sont retrouvés avec des bébés ou des enfants en situation de dénutrition assez alarmante. Et à chaque fois, on retrouve toujours, toujours ce même constat de refus de faire appel à des médecins et de se tourner vers l'homéopathie, même pour des pathologies extrêmement graves. On prend l'exemple de ce couple de parents australiens qui a fait 1 heure de route avec un enfant vraiment dans un état de santé extrêmement critique. Je crois que le bébé avait 18 mois, il me semble, et qui pesait 4 ou 5 kilos, je crois. Un poids de naissance, à peu près. Et au lieu d'aller voir un médecin, au lieu de se rendre aux urgences, ils ont préféré faire 1 heure de route pour aller voir un homéopathe. Voilà, on constate aussi des fois que les enfants n'ont pas de carnet de santé, bien sûr, ne sont pas vaccinés, parce qu'il y a énormément de refus de la vaccination, hein, dans ces modes de pensée aussi. Donc voilà, ce sont des cas qui sont traités généralement avec des gros titres qui disent, en l'occurrence ce cas-là de ce bébé dont je parlais juste à l'instant, a été traité avec un titre qui disait des parents donnent du lait végétal à leur enfant il est dénutri ou il est décédé, etc. Et alors c'est vraiment pas le. C'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un traitement de l'information qui est confusionniste, hein, parce que c'est pas du tout le fait d'avoir donné du lait végétal en soi qui est en cause. C'est le fait de ne pas avoir administré une préparation infantile. Ça, c'est l'ANSES en France le rappelle très bien sur son site et dans ses communiqués. Il y a des préparations infantiles qui sont d'origine végétale, qui sont composées à partir de protéines d'origine végétale, qui sont tout à fait adaptées aux besoins des enfants, comme des préparations infantiles à base de protéines d'origine animale. Voilà, la confusion, il faut pas la faire avec les laits végétaux ou les jus végétaux qui sont disponibles en supermarché et qui sont d'usage courant, donc les laits de soja, ce qu'on appelle les laits d'amande ou les jus d'avoine, ce genre de choses, qui eux, bien sûr, d'un point de vue nutritionnel, ne sont pas du tout adaptés aux bébés. Donc là, ça manque un petit peu d'informations aussi. C'est difficile pour les parents d'avoir accès à ce genre d'informations. Ils vont se dire, bon, bah, je peux donner du lait, c'est du lait de soja, je peux le donner à mon enfant et ça, je vais avoir un bon résultat. Et effectivement, ça crée des gros soucis. Voilà, donc c'est pareil dans les médias, ça va être le végétalisme qui va être mis en cause, alors que c'est plutôt l'accès à l'information des parents qui fait défaut.
Et puis le manque d'infos donné par les journalistes sur les cas dont ils parlent aussi, quoi.
Et tout à fait, parce que c'est vrai que ce qu'on peut déplorer, c'est qu'en traitant l'information de cette façon, bah du coup, les véritables informations ne passent pas. Donc les parents n'ont pas accès, n'ont pas du tout accès aux informations. Ça, c'est le détournement de la science ou des médecins, c'est quelque chose qui est assez récurrent. En tout cas, c'est un risque, je pense, que les médecins doivent prendre en considération avec leurs patients et leurs patientes, hein, qui sont végétariennes, les populations végétariennes ou végétaliennes ou véganes. C'est d'essayer de ne pas les dissuader d'être végétarien ou végétalien, mais plutôt d'essayer de les accompagner. Parce que c'est vrai que généralement, les médecins généralistes sont assez peu formés à la nutrition. Et il n'y a pas de formation aux alimentations végétales en France. Donc c'est un gros souci, parce que le premier conseil qui va être généralement donné par les médecins aux familles, c'est ben, remanger de la viande, remanger des poissons, remanger des produits laitiers, etc. Alors, soit les familles prennent ça en considération et se mettent de nouveau à manger des produits d'origine animale, mais le risque, c'est aussi que ces familles se disent, mon médecin est incompétent, les médecins en général sont incompétents, et de se détourner complètement de la médecine et d'arrêter tout suivi. Et là, on se retrouve avec des gens qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui peuvent d'autant plus facilement tomber dans les pseudosciences, tenter des thérapies alternatives, des médecines alternatives,
C'est ça.
etc.
Donc,
Et se mettre en danger.
Après, au lieu d'aller chez le médecin, ils vont sur YouTube et sur des chaînes peu sectaires ou dangereuses, quoi.
C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir bah, des chaînes qui vont leur conseiller de faire des jeûnes, de boire des jus, détox, ce genre de choses.
Le tout avec un extracteur de jus à 500 euros.
C'est ça. Avec des promesses éventuellement
On
que ça va
ne
guérir du
citera
cancer aussi.
personne.
On ne citera personne, mais tout le monde y pense, voilà. Donc, et puis, bon, bah, c'est vrai qu'en plus avec l'exposition médiatique à ce genre d'informations, parce que c'est quand même présent, hein, ce genre de discours sur énormément de sites
Ouais, bien sûr.
divers et variés, hein, avec beaucoup de publicité aussi pour plein de produits, on se retrouve un peu dans la loi de Brandolini, quoi, qui énonce que bah, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. Donc c'est vrai que pour passer derrière et essayer de rétablir une approche qui est plus près du réel, qui correspond plus à ce que dit la science, c'est assez compliqué, quoi. Voilà, donc c'est vrai que sur la littérature scientifique dont on dispose au sujet des alimentations végétales, qui est quand même assez fournie, on sait qu'une alimentation végétalienne bien menée, elle est possible à tous les âges de la vie et à tous les stades de la vie. Donc, c'est-à-dire pour les bébés, les femmes enceintes, allaitantes, les sportifs aussi. Voilà. Donc ça pose pas de soucis, mais par contre, il faut que ce soit bien fait, de préférence avec un suivi nutritionnel, même si c'est pas indispensable, hein, mais voilà, il faut que ce soit bien mené.
Donc tu veux dire qu'il y a vraiment un consensus scientifique par rapport à ça qui dit qu'on peut bien vivre avec ce type d'alimentation à tous les âges de la vie?
En tout cas, alors, c'est vrai que parler de consensus, je sais pas quel est le stade, à partir de quel stade on peut parler de consensus. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on dispose de méta-analyses qui sont quand même, qui présentent des méthodologies extrêmement solides, voilà, des études de cohorte. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Après, bon, c'est aussi des données qui sont reprises par les instances de santé. Mais même en France, hein, c'est vrai qu'en France, le PNNS, énonce qu'il est possible d'être végétalien, végétalienne, en se complémentant en vitamine B12. Évidemment, on peut d'ailleurs en parler, faire une petite parenthèse sur la vitamine B12. Voilà. Donc bon, la vitamine B12, moi, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Alors, je précise que je suis pas nutritionniste. Voilà, c'est vraiment des recherches que j'ai effectuées à titre personnel. Donc c'est une vitamine qui est absente, comme je disais tout à l'heure, des produits végétaux. Donc on la trouve pas en fait dans l'alimentation traditionnelle, ni dans les fruits, ni dans les légumes, ni dans les céréales ou les légumineuses ou les huiles, etc. Donc on va la retrouver plutôt dans les produits d'origine animale. Alors des fois aussi en quantité assez moindre ou qui présente une biodisponibilité assez moindre. C'est le cas dans les œufs par exemple, qui contiennent de la vitamine B12, mais elle est absorbée à moins de 10% généralement, donc c'est pas une source de B12 très, très fiable. Il y a des aliments végétaux aussi qui sont un petit peu piégeux à ce niveau-là, puisqu'ils contiennent de la vitamine B12, mais qui n'est pas assimilable par l'organisme humain. Alors voilà, c'est le cas spécifiquement par exemple de la spiruline, qui est une cyanobactérie, qui est souvent vendue sous le terme algue bleue, et qui est très plébiscitée pour sa teneur en protéines, qui est en effet extrêmement intéressante, puisqu'elle contient jusqu'à 70% de protéines de bonne qualité. Donc ça, c'est voilà, c'est intéressant. Mais par contre, elle est souvent vendue aussi comme une possibilité de se complémenter en vitamine B12. Et là, par contre, c'est une information qui est extrêmement trompeuse, parce que c'est une pseudo-vitamine B12, c'est-à-dire que c'est une molécule qui est analogue à la B12, qui va être interprétée comme de la B12 par l'organisme humain, mais qui ne va pas avoir d'activité vitaminique. Donc ça ne permettra ni d'assurer des apports corrects en B12, ni de combler éventuellement une carence. Voilà, donc bon, ça c'est important aussi dans les milieux vegan, il y a souvent une confusion à ce sujet-là.
Et
Donc c'est
est-ce que tu
important
peux nous dire, ça donne quoi comme
ça donne
symptôme
quoi
d'avoir
comme
une
symptôme
carence en
d'avoir une
B12?
carence. Alors les symptômes sont quand même assez nombreux, parce que c'est une vitamine qui a une grande influence et qui est impliquée dans beaucoup de processus métaboliques. Donc généralement, ce qui arrive dans les premiers temps, c'est des fourmillements aux extrémités, donc dans les mains surtout, une perte d'énergie, une sensation de fatigue. Il peut y avoir aussi alors une alopécie, ça c'est arrivé, moi chez des personnes que je connais, au bout de quelques mois seulement de manque d'apport en B12, donc c'est-à-dire une perte des cheveux. Il peut y avoir aussi des muqueuses dégradées, notamment une languirité ou la trace des dents qui reste dans la langue, ce qui peut être assez impressionnant. Et aussi un déclin psychologique, des troubles du sommeil, des hallucinations, une dégradation des capacités auditives et visuelles,
Donc,
un effondrement des défenses immunitaires.
ça c'est assez important en gros quoi.
Oui, c'est assez important. Ça peut aussi se terminer en paralysie partielle ou totale. Et ça implique, alors là c'est pour les adultes, mais ça implique aussi des conséquences extrêmement graves sur le fœtus pour les personnes qui sont enceintes, et notamment des risques de malformations congénitales, notamment des fentes labiales, ce qu'on appelait à une
Ah
époque
oui,
le bec de lièvre.
ok.
Ouais. Voilà, donc ça peut vraiment être dramatique. Voilà.
Ok.
Donc. C'est vrai que pour les populations qui sont végétariennes, végétaliennes ou véganes, il est conseillé de consommer des produits qui sont complémentés en vitamine B12, qui sont assez rares encore en France. On retrouve des fois des produits complémentés, surtout dans les fromages végétaux ou certains produits qu'on appelle des simili-carnés, donc qui sont faits à base de soja, à base de blé, etc. Ou certains produits de remplacement, entre guillemets, de viande, de fromage, etc. Mais c'est quand même assez rare en France, c'est beaucoup plus fréquent dans les pays anglo-saxons. Et puis c'est une manière qui n'est pas très précise aussi de se complémenter, c'est difficile hein, d'estimer ses apports. Donc ce qui est conseillé, c'est de prendre un complément alimentaire, de prendre un complément de B12 directement. Voilà, ça c'est la solution la plus simple. Le complément, c'est pas très cher, hein. Ça coûte le moins cher, il coûte 4 euros par an, donc c'est pas, enfin pour un adulte. Donc c'est une solution qui est relativement accessible. C'est vrai qu'il y a une attente un petit peu de santé publique à ce niveau-là, parce que la B12 en fait pourrait être intégrée à des produits de consommation courante pour faciliter un petit peu cet apport chez les populations végétariennes et végétaliennes qui sont pas très informées. C'est vrai qu'on constate actuellement de plus en plus de personnes qui sont flexitariennes ou végétariennes, qui essayent de réduire leur consommation de viande, etc. Et ces populations-là, ben, en réduisant leur part de produits d'origine animale dans leur alimentation, ben, sont de plus en plus exposées à une carence en vitamine B12. Et si elles ne sont pas informées, ça peut avoir les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc c'est vrai que ce serait intéressant peut-être de complémenter en B12 de la farine ou d'autres produits de consommation courante. Ben, un peu comme ça a été fait. En 1952, je crois, avec le sel de table, où les autorités sanitaires ont à un moment dit on va complémenter le sel de table en iode pour éviter les carences en iode, le crétinisme, les problèmes thyroïdiens qui sont liés, etc., dans la population française. Et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc ça pourrait être envisagé. Voilà. Mais en attendant, c'est vrai que la population végétarienne, enfin toutes les personnes qui végétalisent entre guillemets leur alimentation doivent penser à prendre un complément. Voilà. Bon ça c'est vrai que ça pose question parce qu'on a toujours des informations qui sont très contradictoires dans les médias. Je repense à l'intervention de Agnès Buzyn par exemple sur CNews, c'était en juin 2019. Où elle disait sur le plateau de CNews que les enfants avaient besoin de protéines essentielles, c'est-à-dire celles qu'on ne trouve pas dans les végétaux. Et elle concluait en disant donc attention au véganisme. Et alors là, il y a une grosse confusion parce que la notion de protéines essentielles, elle n'existe pas du tout en nutrition. Et bon, comme c'est la ministre des Solidarités et de la Santé, ça
Ça,
induit.
c'est gênant.
Voilà, c'est vrai que c'est quand même une personne qui fait autorité hein, auprès du grand public. Donc il y a des messages comme ça de santé publique qui sont très mal délivrés, qui sont carrément erronés.
Oui, il y a plein de protéines dans les végétaux, quoi.
Voilà, c'est vrai qu'il y a plein de protéines, et puis on ne parle pas de protéines essentielles, on parle d'acides aminés essentiels, c'est-à-dire que les acides aminés que le corps humain est obligé de se procurer via l'alimentation. Mais effectivement, il y a tous ces acides aminés dans des proportions très convenables, par exemple dans le soja, dans le quinoa,
Tout
dans
ça, ouais.
d'autres aliments. Et puis il n'y a pas spécialement besoin de faire des calculs très compliqués pour avoir ces acides aminés dans de bonnes proportions. Généralement, en combinant céréales et légumineuses dans une même journée, pas forcément au cours d'un même repas d'ailleurs, on obtient ce qu'il faut. Et puis en mangeant en quantité suffisante aussi, c'est quand même difficile d'avoir des problèmes. Avec les protéines, en tout cas dans nos pays développés, dans les sociétés dans lesquelles on vit,
Tout
quoi.
ça.
Voilà. Donc, de la même façon, il y a eu aussi un avis qui a été émis par l'Académie royale de médecine de Belgique cette année, qui a été extrêmement contesté par la suite, mais qui remettait en question. Alors, je crois que c'était quelques médecins, je crois qu'ils étaient 8, qui ont émis un avis extrêmement défavorable sur la question du végétalisme et du véganisme, en disant que ça n'était pas viable, et pareil avec des erreurs aussi assez grossières. L'Académie a notamment prétendu qu'il n'existait par exemple pas de vitamine D d'origine végétale, ou en tout cas que la vitamine D était forcément d'origine animale. Or, maintenant, on a de la vitamine D qui est obtenue à partir de lichen. Donc, Tout ça, voilà, ce sont des erreurs qui peuvent provoquer vraiment le doute en fait dans l'esprit du public et semer vraiment la confusion. Et puis encore une fois, comme je disais tout à l'heure, détourner les gens des instances de santé en se disant mais ces gens-là ne sont pas fiables, ces instances ne sont pas fiables, je vais plutôt me renseigner sur telle chaîne YouTube, tel site, etc. Avec voilà, avec les soucis qu'on connaît. Donc voilà. Il y a aussi la formation des naturopathes, par exemple. Alors c'est vrai que les naturopathes, je constate moi à mon échelle, c'est alors c'est pas des, j'ai pas de données précises à ce sujet-là, mais je vois énormément de personnes véganes qui sont entourées de naturopathes et la naturopathie assez présente aussi dans ce milieu-là. Et bon, c'est une personne qui est naturopathe qui me disait que dans leur formation, on leur apprend justement qu'il y a de la B12 disponible dans la spiruline. Et ça, voilà, ça pose énormément de questions aussi, parce que les personnes qui sont véganes, qui vont se détourner un petit peu de la médecine pour aller voir des naturopathes, etc., bah, vont être confrontées à ce genre d'informations et vont pouvoir développer une.
Oui, on sait que ces praticiens, ils ont une tendance aussi anti-système, donc ils vont avoir tendance à rejeter certaines infos qui sont relativement solides pour aller plutôt les chercher dans des milieux alternatifs et après vont diffuser ces infos qui sont erronées ou qui sont dangereuses, quoi.
Tout à fait, bah, ça peut être accompagné d'autres pseudosciences aussi, d'autres choses qui entretiennent ouais, un climat de croyance, de crédulité, et puis qui nuisent de toute façon à la pensée critique en général des patients, quoi, et à la capacité à remettre en question l'information qui est délivrée, etc. Donc on a une espèce de cercle vicieux, comme ça, une boucle de rétroaction qui fait que bah, plus le traitement médiatique est inadapté ou inadéquat, plus la société est réfractaire à étudier le sujet, donc plus la méconnaissance est forte, et plus les gens deviennent végétariens ou véganes sans savoir vraiment comment faire et sans avoir d'informations adaptées. Donc plus ça pose de problèmes et plus le traitement médiatique est mauvais en fait. Donc ce cercle vicieux-là, je pense que ce serait intéressant de le casser. Et pour le casser, une des solutions serait de dépassionner un petit peu le débat. Parce que bon, bah, c'est vrai que ce débat-là, il est lié à des questions éthiques hein, qui remettent profondément en question nos modes de vie et les habitudes. Et on sait bon que c'est très très coûteux d'un point de vue cognitif d'envisager un tel changement. Donc ça provoque énormément de rejets, énormément de réactances psychologiques. C'est des sujets. Enfin, moi, c'est un sujet, le véganisme, que j'ai énormément de mal à aborder avec les personnes qui sont sceptiques et qui sont pas dans ce domaine d'études-là. Généralement, il y a un rejet qui est immédiat. Voilà, alors je pense que c'est bon, c'est aussi en partie la responsabilité des personnes qui sont véganes elles-mêmes, hein, qui peuvent défendre le sujet de manière un petit peu bancale, avec des arguments qui sont très très douteux, du traitement médiatique, comme je disais aussi. Mais bon, pour moi, le sujet devrait être examiné avec un peu plus de recul, un peu moins de passion. C'est pareil, il y a beaucoup d'intérêt aussi derrière. Il y a beaucoup d'éleveurs, par exemple, qui n'ont pas du tout intérêt à ce que le sujet soit abordé. Calmement, évidemment,
Bien
puisqu'ils
sûr.
tirent directement bénéfice. Voilà, on peut pas leur reprocher. Hein, bien sûr, c'est ils sont dans un système dans lequel ils n'ont pas intérêt à ce qu'on remette tout leur mode de vie en question, eux non plus, quoi. Voilà. Donc alors on est exposé en tant que végane à énormément d'arguments fallacieux aussi, hein, des pentes glissantes terribles aussi. Où, on peut lire dans certains médias que si le monde devenait végane, on aurait c'est une espèce de dystopie comme ça, avec des animaux remplacés par des robots, un effondrement total de la société, ou alors les vaches qui nous envahiraient, ou au contraire toutes les espèces domestiques qui disparaîtraient et que ce serait une catastrophe. Enfin, voilà, il y a toute une vision comme ça assez catastrophiste des conséquences. Il y a beaucoup d'hommes de paille aussi, parce que on peut faire penser qu'être végane, c'est refuser d'être de rouler en 4x4, c'est refuser de ci, de ça. Alors, des choses qui n'ont aucun rapport avec la pratique en elle-même. Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues. Hein. Et puis, il y a un double standard, comme je disais tout à l'heure, dans la considération qu'on peut prêter aux injonctions morales ou aux idées liées à l'éthique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté sceptique, par exemple, qui vont avoir aucun problème pour dire il faut dérembourser l'homéopathie. C'est pas normal que la collectivité supporte le coût d'une pratique qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. Ou alors, il faut promouvoir les vaccins parce que c'est une bonne chose, ça épargne des souffrances, etc. Mais c'est une communauté qui va aussi avoir parfois, en tout cas certaines personnes, beaucoup de mal à admettre que, par exemple, les abattoirs sont source de grandes souffrances qui ne sont pas nécessaires d'un point de vue ni d'un point de vue nutritionnel ni d'un point de vue social et qui vont avoir plus de mal à se dire tiens, on devrait éviter ça parce que ça génère de la souffrance.
Oui, bah évidemment, lutter contre l'homéopathie, il n'y a pas, y a a priori aucun sceptique qui est pro-homéopathie, donc en fait ça leur coûte pas grand-chose, tandis que comme on est tous, ou en tout cas une grande partie d'entre nous, on a eu l'habitude ou on a l'habitude de manger de la viande, bah ça remet en question notre mode de vie, donc c'est évidemment quelque chose de plus coûteux cognitivement, comme tu le disais tout à l'heure.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça remet, alors en plus sur l'alimentation, beaucoup, parce que bon, c'est vrai que la démarche végane ne s'arrête pas du tout à l'alimentation, hein, comme je le disais tout à l'heure, elle concerne aussi les pratiques, les loisirs, les sports, l'habillement, etc. Mais c'est quand même l'alimentation qui est la plus présente, hein, 3 fois par jour au moins. On se met à table, voilà, donc et on consomme. Bon, c'est vraiment très très ancré. Puis c'est effectivement aussi la nourriture à. Ça nous rappelle des souvenirs, ça s'est ancré très effectivement très très puissamment quoi.
Tout à fait. Et il y a aussi une question de goût dans une certaine mesure, parce que il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas aussi dans le fait d'apprécier plus ou moins la viande ou plus ou moins les légumes, même s'il y a une part d'habitude, il y a une part de jugement moral qui va influencer là-dessus aussi, mais il y a aussi une part simplement d'appréciation. Il y a des gens qui aiment assez facilement les légumes, et puis il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal avec les légumes, qui aiment bien leur steak. Et bon, je pense dans certains cas, ça va être plus difficile aussi pour les gens de considérer cette option de véganisme ou de végétarianisme. Parce que ça, du coup, c'est en contradiction avec ce qu'ils apprécient. Et l'alimentation, bah, effectivement, c'est un truc important en termes de plaisir, en termes de social. Donc, c'est pas facile de le remettre en
Oui,
question.
tout à fait. Bah ça, de toute façon, la question du plaisir, elle est centrale. Alors, c'est vrai que bon, quand on prend en compte les intérêts des autres animaux, on relativise un petit peu le plaisir qu'on peut prendre à manger leur corps ou à consommer leurs sécrétions, leur lait, leurs œufs, etc. Ça,
Tout
c'est
à fait.
sûr que bon, je connais énormément de personnes hein, qui adorent le goût de la viande, c'est ou le goût du fromage, etc., et qui prennent beaucoup de ou qui prenaient beaucoup de plaisir à les consommer. C'est vrai que En fait, le choix arrive quand on est en situation de dissonance cognitive et où on considère que c'est plus coûteux de continuer à manger ces produits parce qu'on culpabilise des conséquences que ça a, plutôt que de continuer et de rester dans le déni et d'essayer de ne pas y penser.
C'est ça, ouais. Bah, c'est pas un hasard si on mange pas de chien ou de chat non plus dans nos pays, hein.
Voilà, mais c'est ça. C'est vrai que cette question du plaisir, elle est aussi à relativiser en fonction de ça, parce que c'est vrai que si je suis persuadée que la chair de chien ou de chat ou d'autres animaux serait très très appréciée par plein de gens qui verraient une aversion totale à la consommer parce que ils ne considèrent pas socialement, enfin ou symboliquement ces animaux comme des produits ou
Ouais,
des
c'est ça.
aliments, mais plutôt comme des compagnons, etc. C'est beaucoup le cas des chevaux aussi en France en tout cas. Alors c'est vrai que ça dépend, c'est très dépendant des cultures. Hein. En France, on a énormément de mal à envisager de manger chien, chat, chevaux, éventuellement lapin un petit peu. Alors là c'est pareil, on a les filières d'élevage qui essayent de faire des campagnes pour réhabiliter certaines viandes, voilà, qui sont un peu boudées. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, il est inenvisageable de manger des lapins ou de manger des chevaux, etc. Bon, donc c'est très très
Ouais, ça,
variable.
ouais, ça illustre très bien ce double standard dont tu parlais. C'est qu'on a absolument pas le même jugement des animaux en fonction de notre rapport affectif avec eux, quoi.
Mais c'est vrai que ça, l'appel au plaisir, entre guillemets, bon, c'est vrai que c'est un argument qui est très discutable quand il est question de nuire à autrui. C'est vrai qu'on peut se poser la question même sur d'autres domaines. C'est vrai que si je reprends des questions liées à la santé, si mon grand plaisir c'est de fumer cigarette sur cigarette et que je le fais dans la voiture avec mon bébé qui est attaché à l'arrière, ça pose question sur la nuisance que j'impose à mon bébé pour mon plaisir ou dans un lieu public où je vais fumer et exposer les gens du coup à d'éventuels problèmes de santé liés à ma propre pratique. Voilà, je pense que si on considère qu'il est préférable de ne pas nuire, de réduire les souffrances, pareil pour la vaccination, hein, si je considère que ne pas me vacciner c'est un grand plaisir pour moi, etc. Alors que j'expose les gens à des grandes difficultés sanitaires à cause de ça, c'est très discutable comme choix. En tout cas, il me semble que c'est quelque chose dont on a bien conscience dans les milieux sceptiques. Hein. Voilà, on est
Tout à fait.
très critique vis-à-vis des anti-vax, à mon sens, à juste titre. Mais c'est vrai qu'on pourrait prendre du recul sur voilà, plus largement les nuisances causées à autrui dans d'autres domaines, quoi. Voilà, mais c'est quelque chose qui est effectivement très coûteux parce que bon, c'est vrai que la vaccination, on y est moins exposé, ça remet pas en question notre mode de vie. De même pour la terre plate ou l'homéopathie ou voilà, c'est
C'est ça.
ou les fantômes ou que sais-je, voilà, toutes les choses un peu mystiques, etc. Par contre, bon, c'est sûr que l'alimentation, ça nous touche directement, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve même sur les réseaux sociaux aussi des personnalités ou des journalistes aussi des fois qui se disent très rationnels, très sceptiques et qui traitent les questions liées au véganisme d'une manière qui peut laisser un peu songeur, quoi. Voilà, bah, toujours pareil en faisant des hommes de paille terribles, par exemple en accusant certaines associations de vouloir éradiquer les animaux d'élevage, ce qui est un raccourci qui est énorme. Parce que, bon, c'est vrai que en développant le véganisme et en luttant contre l'exploitation des autres animaux, en exprimant que cette pratique-là n'est pas souhaitable parce qu'elle génère trop de nuisances, c'est sûr que l'idée c'est de mettre fin à l'élevage et à l'abattage, et donc d'arrêter les inséminations, et donc d'avoir moins d'animaux domestiques, voire plus du tout, en tout cas les races domestiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est pas d'éradiquer ces races, hein, c'est juste de réduire les souffrances. L'éradication ou la disparition éventuelle des races est une conséquence et pas un objectif. Donc voilà, il y a beaucoup de confusion. Hein. C'est comme si moi je disais je milite pour le déremboursement de l'homéopathie, que ça provoque une perte d'emploi, par exemple, chez Boiron, plein de pertes d'emploi, et qu'on m'accuse ensuite que mon objectif c'était de créer du chômage. Voilà, c'est complètement. À mon sens, fallacieux, quoi. Hein. Ça peut être une conséquence éventuelle, mais voilà. Donc, on a tendance, voilà, à placer les personnes véganes dans la même case que anti-science, pro-bio, anti-OGM, sans gluten, et les personnes plutôt anti-vegan, pro-science, pro-OGM, pro-agriculture, etc. Et à faire une confusion comme ça entre véganisme et agribashing ou anti-science. Mais c'est pas très pertinent à mon sens. Voilà. Il y a aussi un vrai mouvement antispéciste, vegan, animaliste et sceptique qui se développe en France et qui est assez énergique. Voilà, donc on peut le noter, quoi. Il y a cet aspect de ce concept d'idéologie alimentaire aussi qui est très présent, où on va estimer qu'être vegan c'est une idéologie, que être végétarien c'est une idéologie alimentaire, sans forcément avoir conscience que de toute façon l'alimentation est forcément idéologique, hein. Manger tel animal ou tel autre, c'est forcément lié à des choix. Voilà, donc ça peut être aussi examiné.
Oui, ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans cette confusion qu'on voit fréquemment dans différents mouvements et aussi parfois dans le mouvement sceptique, de se dire qu'il y a une position qui est la position neutre, objective, et puis il y a des positions militantes. Bon, quand on fait un choix, c'est jamais neutre ou c'est toujours au moins militant. Et ne pas faire de choix, c'est aussi faire un choix. Et voilà, donc faut pas avoir une illusion de neutralité non plus.
C'est vrai que en dehors de la méthode scientifique, voilà, qui est une méthode qui peut être jugée neutre dans une certaine mesure, toutes les interprétations qui en découlent et toutes les conclusions qui en sont tirées, toutes les recommandations qui en sont issues, sont forcément subjectives, forcément partielles. Enfin,
Bien
évidemment,
sûr.
hein, tout à l'heure on parlait des vaccins, mais si on dit vaccinez-vous, c'est une injonction morale, hein, c'est pas autre chose. Et du coup,
Tout à
bah,
fait.
c'est un discours militant. Alors je prenais cet exemple aussi. Dans une de mes chroniques du double standard vis-à-vis de fumer tue ou de manger de la viande tue. Alors c'est vrai que le premier discours, il est considéré comme un message de santé publique, un petit peu provoque, mais tout à fait acceptable et important. Et par contre, manger de la viande tue, ça c'est on va tout de suite considérer que c'est un message militant et qu'il ne faut pas le prendre en compte. Lorsque bizarrement, on est beaucoup plus sûr que la viande tue, hein, l'animal qui a été transformé en viande, alors que fumer ne tue pas forcément. Dans l'absolu, on peut fumer un petit peu et ne pas en mourir. Bon. Mais malgré tout, voilà, il y a cette ce double regard, quoi, qui fait que on va pas considérer les deux messages de la même façon.
Ok, bah donc voilà, je pense qu'on arrive du coup effectivement à la fin de l'épisode. On a pu couvrir un peu les points importants de ce sujet. Ce que je propose pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, c'est que je mettrai les différents liens sur lesquels on peut se renseigner sur la page de l'épisode, hein, notamment le site sur lequel tu publies pas mal d'infos. Comme ça, ceux qui veulent creuser le sujet pourront le faire. Voilà, bah sinon je te remercie beaucoup d'être venu sur le balado pour parler un petit peu de ce sujet qui est pas souvent ab abordé dans le mouvement sceptique et je pense que c'est chouette qu'on ait pu en parler.
Bah écoute, merci à toi, ça a été un plaisir. C'est vrai que je pense que c'est un sujet qu'il faudrait essayer d'aborder bah, sans tabou et sans crispation dans les communautés sceptiques. Ça peut être très productif, je pense, et notamment pour la santé des personnes, hein. Donc merci à toi.
Ok, bah voilà, j'espère qu'on aura pu contribuer un petit peu. Et bah voilà, merci à toi et à bientôt alors.
Merci et à très bientôt.
Ciao.
Ciao.
Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast, vous aimez le travail que nous réalisons, vous voulez nous soutenir, vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous aider avec les différents frais liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1 $ par mois.